mission de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 9 septembre 1995. Première conférence.
Le mot sagesse a-t-il la même signification pour sagesse philosophique, théologique, mystique? Voyez, le mot sagesse a une signification analogique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun et il y a des modalités diverses. La sagesse, c'est ce qui atteint, ce qui a d'ultime pour notre vie humaine. C'est ça le mot sagesse, à la différence de la science. Saint Augustin dit là-dessus des choses très intéressantes en montrant que sagesse implique toujours une connaissance affective aimante parce qu'elle touche notre fin, notre finalité. C'est dans ce sens-là qu'il dit que les mathématiques ne sont pas une sagesse parce qu'elles n'atteignent pas notre fin humaine. Tandis que la philosophie atteint une certaine fin humaine, la théologie également surnaturelle, la sagesse mystique, de la manière la plus parfaite. Donc, c'est la sagesse mystique qui, de fait, est pour nous, en tant que chrétiens, la sagesse la plus parfaite, comme sagesse. Vous voyez, quand on dit que la sagesse est un habitus contemplatif, c'est-à-dire une qualité habitus, c'est une qualité, c'est quelque chose qui vient s'ajouter et qui qualifie. Quand vous parlez d'un ouvrier qualifié, c'est qu'il a justement une habileté, une connaissance que les autres n'ont pas. Alors, la sagesse vient qualifier notre intelligence liée à notre amour pour atteindre ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de la connaissance philosophique, dans l'ordre de l'intelligence au service de la foi et dans l'ordre surnaturel sous le souffle de l'Esprit Saint. Trois modalités. Mais toutes les trois ont sagesse. Il n'y en a pas de quatrième. Sauf, si vous regardez historiquement, on a dit que la prudence était une sagesse pratique. D'une certaine manière. Et avant de faire le discernement de la vraie sagesse, la prudence était considérée comme une sagesse. Pour les Grecs, donc pour le patrimoine grec, le sage, au point de départ, était un homme politique, capable de gouverner et capable de mener les autres à leur vraie finalité. Alors, Thalès était un sage. C'était une sagesse politique, sagesse pratique, très proche de la prudence. Puis on a dit, est arrivé à distinguer la connaissance pratique de la connaissance dite théorétique, c'est-à-dire contemplative. Parce que la prudence n'est pas contemplative. Et la sagesse théorétique, qui est la sagesse contemplative, c'est justement ce qu'il y a d'ultime en philosophie, ce que nous allons voir progressivement. Et voyez, à partir de Platon, on a parlé de philosophie philosophie, c'est quoi? C'est l'ami de la sagesse. En disant sagesse, c'est trop grand. C'est vrai, n'allez pas dire je suis un sage parce que je fais de la philosophie. Non, on est l'ami de la sagesse. C'est très beau, tu vois. Le philosophe, c'est celui qui fréquente la sagesse, celui qui l'aime, celui qui est l'ami de la sagesse, philosophia. Il y a une autre question que je ne traite pas ici, parce qu'elle implique tout un aspect critique. Alors on va voir ce que c'est que la critique, alors peut-être qu'à ce moment-là, on pourra la traiter. Je voudrais maintenant, aujourd'hui et demain, entrer dans ce que représente la sagesse philosophique, la sagesse théologique. On en fera un peu ici, mais c'est surtout Arimon. La sagesse mystique, je la réserve pour le permettre. C'est un officiel laboratoire. C'est dans notre vie religieuse le laboratoire de la sagesse mystique. Ça se vit dans l'intimité avec l'Esprit Saint. Il faut en avoir soif. Et une très grande soif et un très grand désir. Mais c'est ce qui nous conduit à une prière toujours plus intime et toujours plus personnelle. Vous envoie Arimon. Quand on vous envoie à Montmorin, c'est pour découvrir le secret de l'intimité avec Jésus, avec le Père. C'est pour découvrir la docilité à l'égard de l'Esprit Saint. Et ceci reste tout le temps pour nous la chose essentielle et première. C'est ça qu'on cherche à travers tout. Et plus que tout. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous l'enseigne. Alors on peut donner un cours de théologie mystique, ce que nous ferons, en vue de vous donner soif de la sagesse mystique. Ne confondez pas. Il faut bien saisir. On acquiert une théologie mystique. Et la théologie, la sagesse mystique, elle est infuse. Elle est donnée gratuitement par l'Esprit Saint. Alors je voudrais maintenant entrer avec vous dans ce que nous allons essayer de faire ensemble. La sagesse philosophique. Nous essayons ici d'entrer et de nous former à une philosophie dite réaliste, c'est-à-dire une sagesse philosophique qui regarde l'homme dans ce qu'il a de plus concret. Et de plus profond. Je ne dis pas dans ce qu'il y a de plus abstrait. C'est faux, ça, de dire ça. Non. Que de fait, on soit obligé de passer par l'abstraction. On ne la recherche pas, l'abstraction. Elle s'impose à nous. Condition sine qua non de penser et d'analyser. Ce qu'on cherche, c'est la connaissance de l'homme. Il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est très important, d'avoir toujours, toujours cette finalité nette. Philosophie réaliste, qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Depuis Kant, depuis Descartes, on est en face d'idéologie. philosophie, mais elle prétend être philosophie. L'idéologie a corrompu la philosophie. Il n'y a pas de sagesse dans l'idéologie. Alors, il faut bien saisir cela, parce qu'on est tous dans notre monde d'aujourd'hui. Si je pouvais prendre le baromètre idéologique de chacun d'entre vous, ce serait très intéressant de voir le degré d'idéologie qui est en vous. Parce qu'on est tous imprégnés de cela. On doit lutter constamment contre les idéologies. Je vous donne un petit exemple pour vous faire comprendre. Quand on est arrivé à Rimont, abbé de Lérins, union avec tous les évêques de la région. Personnellement, je disais au père abbé, on a été reçu par un évêque, Monseigneur le bourgeois d'Autun. Si les évêques veulent nous connaître, ils n'ont qu'à venir. La porte est ouverte. Nous ne sommes pas une secte. Et c'est eux qui doivent venir nous connaître. Non pas nous présenter à eux, puisqu'on n'est pas reçu chez eux. Le père abbé de Lérins voulait une réunion. Et il voulait que j'expose à ces 6 ou 7 évêques de la région l'enseignement qu'on donnait, ce que je fais pour vous maintenant. Alors je lui dis, mon père, puisque vous me le demandez, je veux bien, mais c'est pas très commode d'enseigner de la philosophie aux évêques. C'est pas très commode. Mais puisque vous le demandez, je vais le faire. Alors j'ai commencé par dire, mes excellences, je vous considère comme mes élèves. Et je vais vous faire un cours de philosophie pour bien montrer la différence entre les idéologies et la philosophie. J'ai dû parler comme ça pendant une heure et demie. Puis après, j'ai demandé, avez-vous des questions ? L'un d'eux a dit, mon père, je ne comprends pas. Nous avons tous nos idéologies. Et notre philosophie est nécessairement une idéologie. Alors j'ai répondu du tac au tac. C'est pour ça que c'est si difficile de vous comprendre. Et c'est vrai. Idéologie, ce serait mon idéologie. Et la philosophie, ce n'est pas ma philosophie, c'est la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, ça ne m'appartient pas. La sagesse s'enseigne sans envie, elle se communique, elle ne m'appartient pas. Ma philosophie ne m'appartient pas. C'est la vérité qu'on essaie de découvrir progressivement. Et on dit à tout homme capable de réfléchir qu'il peut progressivement découvrir. voir progressivement. Parce que ça, c'est très important. Alors, l'idéologie commence par les idées. Descartes, c'est très net. On a des idées innées. Le petit enfant dans son berceau, il a des idées innées. Alors il suffit tout simplement de réactuer ces idées innées. Platon avait déjà dit quelque chose comme ça. Parce que les idéologies s'enracinent dans Platon. Faut pas l'oublier, c'est le grand-père des idéologies, Platon. Et Descartes est le père. Et Hegel le fils bien-aimé. Alors vous avez là le ski de printemps des idéologies. Alors, en Suisse on parle du ski de printemps, tu vois, quand les neiges sont déjà un peu fondues, alors il reste les crêtes, il reste le sommet, ce qui est intéressant. Alors Platon, avant d'être uni au corps, l'âme vivait une vie contemplative, celle des dieux, notre âme est divine. Et elle n'est bien qu'auprès des dieux. Quand elle est avec les hommes, elle est dans la caverne. C'est-à-dire qu'elle ne voit plus rien, elle ne voit que les apparences. Je vous vois. Je vois les apparences. Je suis un appareil photographique. Je vois les apparences et je garde les apparences. Qu'est-ce que vous avez dans la tête quand vous m'écoutez? Si vous gardez le silence, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je présume qu'il y a beaucoup de bonne volonté. C'est un grand a priori, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas. Il y a quand même cet a priori, puisque on est ici, c'est comme pour les étudiants, je présume. Il y en a peut-être dedans un qui vient ici pour torpiller. C'est possible, avec une bombe dans la poche. On va torpiller ça. C'est possible. Puisque les apparences, il suffit de passer dans un système donné sans que ce système crie. Et on passe. Pour Platon, c'est net. Ici, sur la terre, c'est les apparences. Le philosophe, c'est celui, le sage et le philosophe, c'est celui qui redécouvre ce qu'il vivait dans la vie passée comme contemplatif. La théoria, chez Platon, est une chose merveilleuse. Père Festugière, dominicain, que j'ai bien connu. J'ai suivi des cours du Père Festu, ce qu'on l'appelait Festu. Il avait une tête grecque. Il était merveilleux. Mais il était platonicien à fond. Il comprenait rien à Aristote. C'était Platon. Le grand génie, c'était Platon. C'était intéressant d'avoir un platonicien qui descend du ciel. Parce que vraiment, pour lui, c'était ça. Un platonicien descend toujours du ciel. Il est mal à l'aise sur la terre. Il est mal à l'aise dans sa peau. Parce qu'il est uni au corps à cause des péchés. Parce qu'il a péché. Parce qu'il était orgueilleux. Alors on le punit en lui mettant cette armure. Le corps, c'est une armure. On ne regarde que les apparences. Alors que la véritable intelligence, c'est de connaître l'intérieur des choses. Il y a quelque chose de juste, hein. Il ne faut pas oublier. C'est très séduisant, Platon. Il faut tous être un peu séduits par Platon. Il vaut mieux être séduit par Platon au début de ses études qu'à la fin. cela, c'est la réincarnation. Chose aujourd'hui qu'on retrouve constamment. Une fois, je me souviens, c'est rare que je prends un taxi, mais là, j'étais obligé de le prendre. Je suis tombé sur un chauffeur de taxi qui m'a dit que dans sa vie antérieure, il était grec et qu'il avait connu Socrate et Aristote. Alors je suis mis à lui parler quelques mots grecs. Elle dit, ah, j'ai tout oublié le grec. Mais dans sa vie antérieure, il avait même joué au théâtre grec. Pour Platon, mon âme a existé avant que d'être dans mon corps. Il faisait partie de l'Olympe. Et j'ai vécu une vie contemplative. Et toute la philosophie consiste à redécouvrir les idées. Vous voyez, l'idéologie. Les idées que j'avais avant. Et toute l'éducation, toute l'instruction consiste à secouer quelqu'un pour qu'il redécouvre ce qu'il connaît avant. Le ménon, le dialogue, le ménon. Il est bon pour cependant les études de lire, je ne dis pas tout Platon, mais quelques dialogues de Platon. On ne peut pas faire des études sérieuses sans avoir mis son nez dans Platon. Alors il faut demander à ceux qui sont près de vous, les parrains, quel livre de Platon on peut lire. Parce que c'est énorme Platon, hein. Et chaque dialogue de Platon, ça se tient tout seul. C'est merveilleux. Je crois que Platon, c'est le philosophe de l'âme. Et si j'avais eu le temps, j'aurais écrit, parce que j'ai enseigné à Fribourg la philosophie grecque, et donc j'ai enseigné tous les 4 ans Platon. Ça m'intéressait beaucoup. C'est très séduisant. Et puis une fois qu'on a compris, on voit que c'est un jeu extraordinaire d'un grand artiste, Platon. Un très grand artiste. Un artiste de grand ordre. Et une nostalgie du ciel. Assez particulier comme nostalgie. Une nostalgie de séduction. Mais Platon joue un rôle énorme dans la philosophie européenne et américaine. Heidegger dit que toute la philosophie occidentale n'est qu'un commentaire de Platon. C'est exagéré, mais il y a quelque chose de juste. Donc, on commence par les idées on les a en soi. Pour Descartes, on a des idées innées, l'idée de perfection, l'idée d'infini. Pour Rosmini, c'est pour montrer que ça demeure. Rosmini, c'est 1000 ans. Mais c'est au début du siècle et du siècle précédent, la fin. Rosmini, l'enfant, le tout petit enfant, il a en lui l'idée d'être. Il y en a une qu'on a infuse et ça explique toute la métaphysique. C'est pour vous montrer qu'il y a une ligne qui continue. C'est les idéologies qui commencent par les idées qu'on a. Et retrouver ces idées, aller jusqu'au bout de ces idées, c'est le logos des idées. Alors le mot logos grec. Connaissons. dialogue de saint Jean. Le premier qui a introduit ce mot « logos » chez les Grecs, Héraclite, Éphèse, c'est à Éphèse. Et le dernier, Jean, Éphèse. C'est très curieux, vous voyez. Vous aurez à étudier l'histoire de la philosophie grecque. Ce qui est capital dans l'histoire de la philosophie grecque, c'est de voir apparaître les quelques mots, les quelques expressions qui, de fait, ont été à l'origine de la réflexion philosophique. Et c'est là le petit dictionnaire philosophique qu'il faut avoir. On a traduit « logos ratio ». Pas la raison faculté, la raison objective, ce qui donne l'intelligibilité aux choses. Alors, l'idéologie, on peut dire que ça draine toute la philosophie. Platon, le néoplatonisme, sous toutes ses formes. Saint Augustin a été converti par Platon. Il ne faut pas l'oublier. Et que je vois, grâce à saint Augustin, Platon doit être au ciel. Puisqu'il a, il a converti saint Augustin. C'est, et alors, le néoplatonisme, saint Augustin, Denis. Et puis, pratiquement, vous retrouvez le néoplatonisme à travers toute la philosophie. Alors ça, c'est les idéologies. On commence par les idées. On réfléchit sur les idées qu'on a. Et on fait la philosophie de ces idées. La philosophie réaliste commence par nos expériences. Parce qu'on sait qu'on n'a pas d'idées innées. Qu'on devient philosophe. Tandis que par les idéologies, on découvre qu'on est philosophe. C'est pas la même chose. Découvrir qu'on est philosophe et qu'on l'est depuis notre berceau. Tandis qu'au contraire, on devient philosophe grâce à la réflexion sur nos expériences. Je me souviens, je dis ça encore, à titre de réflexion personnelle. Je prêchais au Carmel de Limoges. La mère prieure me dit, ça vous dérange pas, je dis, 5 prêtres ouvriers, c'était la période des prêtres ouvriers, prennent leur repas tous les jeudis ici, est-ce que vous aimez mieux prendre votre repas seul ou avec eux? Alors je dis, mais ma mère, c'est l'occasion de les voir, c'est très bien, je prends mon repas avec eux. Alors tout de suite, j'étais en dominicain, eux étaient en habit qui leur convenait comme prêtre ouvrier, c'est-à-dire le plus débraillé possible. C'était le chic, ça, c'était la mode, vous voyez. Alors, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent ça. Alors je dis, je suis professeur à Fribourg, j'enseigne la philosophie à l'université de Fribourg. Ah, quelle philosophie! Non, je dis, écoutez, pourquoi pour vous, il y a plusieurs philosophies. Pour moi, il n'y en a qu'une. Il y a plusieurs philosophies. Mais dites-moi un peu, si pour vous, il y a plusieurs philosophies, est-ce que le marxisme est une philosophie pour vous? Ou est-ce que c'est une idéologie? Il faut tout de suite braquer là-dessus. Alors, ils ne savent pas quoi répondre. Ils m'interrogeaient, moi je les ai interrogés tout de suite. C'est ce qu'il faut faire. Jésus nous apprend ça. Marie dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi me cherchez-vous? Alors, plusieurs philosophies, ils ne savaient plus. Alors, je dis, non, il n'y a qu'une seule philosophie. Il y a la philosophie de nos expériences. Je commence à leur faire. bon ouvrier. Alors là, commencez à... Puis j'ai une vraie philosophie, une philosophie. Au bout d'un certain temps, je me dis, mais c'est très intéressant, alors, une philosophie. Je dis, mais je comprends, autrement, j'en saignerai pas. C'est très... Se connaître. Connaître l'homme dans ce qu'il est, dans toute sa complexité. C'est extrêmement intéressant. Je dis, venez à Fribourg, vous pouvez venir. Puis alors après, j'ai bien expliqué. Je dis, voyez, la philosophie de nos expériences, c'est ce qu'on appelle la philosophie d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Vous attendiez que je dise, mais la philosophie, j'enseigne le thomisme. Ce serait pour vous une idéologie. La scolastique est devenue une idéologie. Un système. Il faut briser ça. On cherche la vérité. À partir de l'expérience. À partir de nos expériences. Le mot terrible d'Aristote sur Platon, il a manqué d'expérience. Je crois que c'est le jugement le plus fort d'Aristote sur Platon. Il a manqué d'expérience. On pourrait dire ça pour Hegel. Il a manqué d'expérience. S'il avait été ouvert à des expériences humaines comme l'amitié, il n'aurait sans doute pas demeuré dans une sorte de dialectique qui ne peut se comprendre que le développement de l'idée. Impossible autrement. Alors voyez, nous sommes tous un peu idéalistes. Nous sommes tous dans les idéologies. Et dans les idéologies, ça aboutit nécessairement à dire que la subjectivité est transcendantale. Puisque les idées, elles sont en moi. Je n'avais pas vu les idées dans les cailloux. Bien que les cailloux se mettraient à crier, soit dit le Seigneur, si on ne proclamait pas la chose. Et c'est vrai. La réalité, c'est autre chose que les idées. J'ai des idées, je sais bien, mais mes idées sont intéressantes pour moi et sont philosophiques. Que dans la mesure elles sont conformes à la réalité. Autrement, elles ne sont pas philosophiques. Elles sont imaginatives. Les idéologies, c'est de l'imagination. Une imagination extrêmement habile, très, très, très intellectuelle, très spirituelle, mais c'est d'imagination. Parce que mon âme n'a pas existé avant mon corps. Et j'ai aucune expérience antérieure à ma vie que j'ai ici sur Terre. Donc, une philosophie n'est réelle que quand elle commence par l'expérience. Alors, l'expérience, c'est typiquement humain. Ça implique le toucher. J'expérimente cette table, vous voyez. Il y a quelque chose de commun avec l'autre salle où on enseigne, c'est la table. C'est la statue de la Vierge Marie. Et vous, c'est les mêmes immeubles. C'est différent comme volume, autrement c'est la même chose. L'expérience implique le toucher. Une véritable expérience. Mais à un moment donné, on a beaucoup, beaucoup parlé, ça fait partie de ces modes comme ça, des soucoupes volantes. Et j'avais un ami qui s'était spécialisé dans les soucoupes volantes. Il faisait la philosophie des soucoupes volantes. Alors je lui demandais toujours l'expérience qu'il en avait. cacher les cauchemars que vous avez. Ou bien au contraire, vous sortez du cauchemar quand vous touchez vos draps et votre lit et vos pieds. Ah, c'est un cauchemar. Mais l'imagination, la séparation ou la distinction entre l'imagination et l'intelligence, c'est à ce moment-là où on peut vraiment comprendre la différence entre les idéologies et la philosophie. La philosophie, c'est l'intelligence qui se sert des sens, externes, et qui se sert de l'imagination, mais qui la dépasse. Parce que je ne fais pas du futurible la philosophie du futurible. Il ne faut pas faire la philosophie du futurible. On m'avait demandé de faire une conférence à Genève, étant à Fribourg. Quelle sera la philosophie de l'an 2000 ? Futurible. J'ai accepté pour dire que c'était un faux problème. De temps en temps, il faut faire ça. Et les gens, puisqu'ils vous sont invités, sont bien obligés d'écouter que c'est un faux problème. C'est, on ne peut pas faire la philosophie de demain. Parce que la philosophie de demain, j'imagine, c'est le possible. La philosophie, c'est la philosophie de ce qui est, de ce qui existe. C'est l'homme, c'est moi. En réalité, je fais toujours la philosophie de ce qui est moi. Et en tant qu'homme, pas en tant que j'imagine un monde nouveau, non, en tant que j'existe comme homme. Et tout ce qui est humain en moi fait partie de ma philosophie. Donc même mon imagination, mais l'imagination n'est pas le fondement de ma philosophie, n'est pas le point de départ de ma philosophie. C'est l'imaginaire qui l'emporte dans toutes les idéologies. C'est pour ça qu'Aristote souligne que c'est tellement important de distinguer la fantasia, la fantasia grecque et italienne, la fantasia et française. L'imaginaire et le réel, c'est point de départ de la philosophie. Je fais la philosophie de ce qui existe. Et parmi les réalités qui existent, il y en a une particulièrement intéressante, plus intéressante que toutes les autres, c'est l'homme. Sans être évolutionniste, je peux dire que l'homme est la réalité que j'expérimente la plus parfaite. Réfléchissez là-dessus. Expérimentez la hauteur d'un glacier. C'est beau. Expérimentez ce que représentent certaines promenades qu'on peut faire en haute montagne. C'est merveilleux. Surtout quand on est seul. La côte sauvage de l'océan. C'est très beau. Et avant toutes les expériences de la nature, toutes ces expériences de la nature, c'est merveilleux. Mais c'est moi qui les fais. Et l'expérience d'un ami, c'est moi qui fais ça. Ça donne tout de suite un relief à tout. Dès que j'ai l'amitié, tout prend des reliefs. Il y a quelque chose de très beau et très grand. Donc, la philosophie commence par l'expérience. Et ça, je crois que c'est capital de le comprendre. Et on voit tout de suite qu'il y a deux types d'expériences. quand vous voyez un accident, ça arrive, hélas. Vous êtes spectateur et vous le regardez et vous voyez et vous dites tout de suite, ah, c'est lui qui a tort, c'est lui qui est en faute. Vous dites, ah non, les deux étaient en faute. Et vous discernez, vous êtes en dehors. Mais l'expérience externe, objective, vous étiez dedans. C'est pas drôle, hein, d'expérimenter un accident quand on est dedans. Alors, ou bien on tombe dans le coma, on voit plus rien du tout. Ou bien on reste à expérimenter ça. C'est tout à fait autre. Vous êtes engagé dans l'accident. Vous n'en pouvez rien, vous êtes engagé. Et vous voyez toutes les conséquences de l'accident. Ah, ça vous a secoué. Plus c'est mal au cou, oh, qu'est-ce qu'il y a? Une valise est tombée sur votre dos. Et deux types d'expériences. Quand je dis la philosophie part de l'expérience, je dois tout de suite préciser les deux expériences. Mais il y a un ordre. Parce que les néoplatoniciens, comme Plotin, deuxième siècle après Jésus-Christ, comme Plotin, qui représente un néoplatonisme très beau et très grand. Plotin prend les deux types d'expériences qu'Aristote avait déjà pris avant. Mais Plotin dit que toute expérience externe est ordonnée à l'expérience interne. Pour Aristote, toute expérience interne provient d'une expérience externe. Il y a un ordre différent. C'est curieux, hein? Cette parole très profonde d'Aristote, quand on est à la source, la moindre déviation de la source va donner une très grande diversité. Si je suis le fleuve, une très grande diversité au terme. En Suisse, on vous présente la source du Rhin et la source du Rhône. Elles ne se touchent pas, mais elles ne sont pas loin. Et quand vous suivez la source du Rhin, et quand vous suivez la source du Rhône, c'est quand même très différent comme spiritualité. C'est quand même très différent comme développement de ces deux fleuves. Si j'ordonne mes expériences externes à l'expérience interne, je demeure dans l'idéologie. Si au contraire, je veux que toute expérience interne me ramène à l'expérience externe, je demeure dans le réalisme. Mais voyez, si je prends un peu matériellement les choses, je me dis, mais c'est la même chose. Ah, pas du tout, il y a un ordre. Et dès le point de départ, il y a une option. Alors pourquoi prendre des expériences externes comme fondement ultime et dernier, et non pas l'expérience interne? L'expérience interne est bien plus spirituelle. C'est l'amour et la connaissance. C'est bien plus séduisant, l'expérience interne. Oui, mais toute expérience interne provient d'une expérience externe. Et donc, si le philosophe veut aller jusqu'au bout et saisir ce qu'il y a d'ultime, il doit nécessairement découvrir la source première de toute ma vie intellectuelle. Et donc, s'il est vraiment loyal avec lui-même, il doit dire que la philosophie repose tout le temps sur les néglige pas l'expérience interne, c'est bien évident. Mais elle doit tout le temps revenir à l'expérience externe. Et c'est pour cela que je pourrais dire que toute ma philosophie réaliste repose sur le jugement d'existence. Ceci est. Pour dire ceci est, il faut l'expérience externe, de la vue ou du toucher. Et même, la vue ne suffit pas. On a vu des soucoupes volantes, on ne les a pas touchées. Je vois des choses dont je n'ai pas touché, je ne sais pas si c'est vrai ou ce n'est qu'une apparence. Aujourd'hui, on projette des choses extraordinaires. On croit que c'est réel, que c'est une chaise réelle. On ne peut pas s'asseoir dessus. S'asseoir dessus, c'est le toucher. Hein. Tant qu'on n'a pas touché, vous voyez, enfin, dans l'évangile, c'est net. Hein. Jésus en face de Thomas, l'incrédule, touche, mets ta main là. Jésus dit, bah, regarde. Ah non, pas du tout. C'est extraordinaire. Pour lutter contre l'incrédulité, mets ta main là, dans la blessure du cœur. Tant qu'on en... Alors, Thomas comprend que c'est une correction, parce qu'il manque de foi. Et là, c'est ça qu'il faut saisir comme quelque chose de fondamental. Tant que vous n'avez pas saisi ça, vous ne savez pas ce qu'est la philosophie réaliste. On a à discerner intelligence et imagination. On a à se servir de l'imagination. Toute l'imagination provient de nos expériences. Et toutes nos expériences internes proviennent de nos expériences externes. Descartes a eu peur des expériences externes parce qu'il a dit, quand je mets un bâton dans un bassin, je le vois cassé. Donc mes sens externes ne disent pas la vérité. Il vaut mieux revenir au sens interne. Aux idées. Saint Froussard, Descartes. On a dit, petit bourgeois, il a eu peur. Il a eu très très peur de se tromper. Et celui qui a très peur de se tromper, il se trompe totalement pour tout. Alors il est dans l'erreur, il ne voit plus qu'il est dedans. Il n'a pas poussé jusqu'au bout. Je suis capable de rectifier mes erreurs de sens externe. Pourquoi ? Parce que l'expérience de sens externe ne se termine pas à la sensation, mais au jugement d'existence. C'est ce que Descartes n'a pas vu. Il a cru que l'expérience externe se termine à ce que je vois, mais non. Je vois le rouge et le vert. Je vois. Le rouge et le vert sont porteurs de significations symboliques pour les vieux routiers. Le rouge ne passe pas. Le vert passe. C'est très symbolique. C'est pas le rouge qui dit ça. Hein. Et c'est pas le vert qui dit ça. C'est symbolique. Ah tiens, c'est vrai. Ah, vous croyez que c'était uniquement la sensation. Mais pas du tout. Vous obéissez à un code de route. Et en réalité, c'est pas le vert et le rouge qui vous fait passer. C'est symbolique. Et c'est un symbole. Voyez, votre expérience se termine non pas aux sensations, mais à la signification de ces sensations. Soyez un peu intelligent, vous verrez ça tout de suite. Donc quand je parle d'expérience, je parle de signification qui me sont données par les sens. Mais je ne m'arrête pas au sens. L'erreur de Descartes, c'est qu'il n'a pas oublié que la signification était au-delà des sensations. Mais une petite erreur qui a eu d'énormes conséquences. D'énormes conséquences. Descartes est un sou qui a été à l'origine d'une quantité de déviations. Donc, la philosophie réaliste part de l'expérience. Il faut découvrir ce qu'est l'expérience. Parce qu'on est dans un monde où, de fait, on ne fait plus attention à nos expériences. Plus du tout. Je prends toujours cet exemple parce qu'il me semble très très joli. C'est mon frère qui m'a raconté ça. Mon petit-neveu avait 5 ans à ce moment-là. Maintenant, il est parti pour le ciel, alors. 5 ans. Pour lui faire plaisir, c'était le cinéma, c'était le film sur Jeanne d'Arc. Un film américain, très beau, du reste, sur Jeanne d'Arc. Mon frère le conduit. Dès qu'il voit l'écran, il regarde son père et dit « Papa, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas la réalité. » Son père était affolé, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, moi je m'en vais. Il dit ça, son père, je m'en vais. C'est pas bon, c'est d'imagination. Il n'a pas pu rester plus de 5 minutes. Hein? Habitué à l'expérience. Alors évidemment, le cinéma, on sait que ce n'est pas la réalité. C'est un monde imaginaire, intentionnel. Ça a peut-être un petit fondement dans la réalité, mais c'est une recomposition de la réalité. Et les gens croient que c'est la réalité au bout d'un certain temps. Il y a une conversion de l'intelligence pour revenir à l'expérience et au jugement d'existence. Ce n'est pas commode, parce que de fait, on vit un monde imaginaire. Un monde d'intention, c'est-à-dire du vécu, et non pas du réel. On est dans l'intentionnalité. Intentionnalité affective, intentionnalité des nouvelles, intentionnalité des images. On reconstruit un monde. Il faut redécouvrir le réel. Et le réel, il est toujours avec vous. Parce que vous êtes le réel. Donc on va faire la philosophie de ce réel que vous. Je suis, je sais que je suis quelque chose de réel. Je me touche, mon corps, mon âme, je la touche à travers mon corps. Mais mon intelligence est capable de la découvrir. Ah, par l'intériorité. Je ne chasse pas l'intériorité. Mais je dis, il y a le monde existentiel que je touche et le monde intérieur. Et je garde les deux. Donc, la philosophie réaliste part de l'expérience. Elle décrit l'expérience et elle cherche à connaître la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. Et c'est les deux points essentiels d'une philosophie réaliste. On part de l'expérience et on cherche à connaître l'expérience dans ce qu'elle a de plus profond. Et ce passage du visible à l'invisible, on appellera ça induction. On passe du visible à l'invisible pour chercher ce qu'il y a de fondamental dans la réalité. Bon. Si vous réfléchissez bien là-dessus, vous comprendrez ce qu'est une philosophie réaliste. C'est très simple. La philosophie, il n'y a rien de plus simple. Mais c'est ça la difficulté, c'est qu'on est terrible.